Donc je passe tout de suite la parole à Ivan Krastiev, qui est un chercheur en sciences politiques bulgare et qui est a permanent fellow at the Institute for Human Sciences in Vienna. So, Ivan.
Thank you very much for the invitation, and because I already met some of the colleagues, it's really a great group of people. The fact that I don't speak French makes it even more interesting for me, because you imagine what interesting things people are saying. And I'm not joking, in fact, on this. Secondly, I do believe that all these seminars and conferences taking place in an interesting time, which is best captured in the old Jewish joke. Do you know what is a classical Jewish telegram? It has only two sentences. Start worrying. Details to follow. So as a result of it, what I'll do is the following. Because we have 15 minutes, I'm much more going to sketch an argument than give you any details. And the story is the following. Unlike many of the people that have been doing protest movements and basically trying to understand all these much more public space movements in the way it was talked about, I was not very much interested in who they are, how they speak. I was not so much interested in them being in a laboratory of a different type of political experience. I was much more interested in how they are changing the democratic and non-democratic regimes in which we are living. So it was much more the impact than the nature and basically the profile of it. So in order to make my story even shorter, I'll introduce it by reminding you of a novel which probably you have read. And this is Saramago's novel, Seeing. It tells the story of a country in which there was an election day and people went to the ballot boxes. But when they started counting the ballots, it turned out that only 25% of the ballots have been valid. More than 70% of the people voted with blank ballots. And the government basically was in panic because, first, why they voted blank? What do they want? Secondly, with whom to talk? And thirdly, basically, who organized all this? So not knowing what to do, the government basically said, let's vote again. And this time, 83% of the people voted blank. I'm saying this because, to a certain extent, this blank vote revolution very much captures the spirit of some of these movements. And don't forget, in the last 7 years, there was major political protests, most of them leaderless, non-violent, horizontal, in more than 80 countries in the world. Democracies and non-democracies. Poor and rich. And this type of variety, this type of a global phenomenon, in my view, is also part of the problem that we're doing. I started my interest in them because I do believe that elections are quite important to understand democratic regimes, not simply because the elections are deciding who is going to be in government. Already, Tocqueville has noticed three important features of the elections, how you're regulating social and political life. First, the regulation have this very important kind of ability to work between over-dramatization and trivialization. On the day before the vote, all the politicians are telling you that the world is going to collapse. And the day after the elections, they're telling you that, in a way, it's under control. And this type of dramatizing and trivializing is quite important for the political cycles in our societies. The second important function of the elections is that it very much is projecting future. Politicians, because of the elections, are forced to promise. Probably they're not going to fulfill their promises, but the very idea of promising, telling you what you're going to do in the future, is extremely important because this is a political regimes which are very much future-oriented, and this is how basically future is produced in non-religious societies. But certainly, which I do believe is very relevant about the role of the protest movements and basically this type of protest we're talking about, democracy is important not about representation, but also about misrepresentation. And what democracy and elections misrepresent, this is passion. On the election day, you, who incredibly care about these elections, and me, who doesn't care much, both have one vote. And this type of misrepresentation of passion, you cannot demonstrate your passion simply by voting. And I do believe this is quite important because this type of protest movements was very much about representation of passion and overcommitment than simply basically of representation of many other things. Why I'm saying all this? Because we have an impact of this protests, which are very different based on the nature of the regime. And I'm going to give you just four cases in 1 minute each to understand why some type of a protest movement which looks so similar when you see on television has a totally different impact when it comes how it affects the system. Russia is the first case. You know, there was the winter protest in Russia in 2011-2012. In order to understand why this protest was so important and, in my view, produced a regime change in Russia, not the regime change that protesters have been about, but a real regime change, you should understand that the major enigma of the Russian political system is the answer of a simple question. Why President Putin is rigging elections which otherwise he is going to win if they were free and fair? This is the problem. And the problem is that he's doing this because the elections in the Russian political system is very much about showing that there is no alternative to the President Putin. Secondly, showing the unity of the nation. When you see Chechnya voting 95% for the Russian president, you basically relax about the fears of territorial disintegration. It's about deciding who is loyal and who is disloyal opposition, because disloyal opposition is not going to be allowed even to take part in the elections. But the most important is elections in Russia is not about faking democracy. It's about faking authoritarianism. You're showing that everything is under control, but you don't need to use classical repression. So as a result of it, the very nature of the Russian political system, the legitimacy of the system, is coming as a rigged elections, which everybody knows that they are rigged openly by the government, but nobody is protesting them. This is the moment when they are protested, this regime is already delegitimized. And this is why the nature of the regime changed. And this is why, basically, in order to demonstrate that the regime is ready to use force, they didn't use force against their own citizens first, but it was Crimea, which was much more the response of what happened in Moscow and in Kiev than basically a kind of a classical realpolitik explanation that people talk about. So this is how the protests in a country very much changed the nature of the regime. Nevertheless, that they have never been even close to dismissing the president or basically getting the support of the majority of the population. And then you go to Turkey, another interesting place where people were even not talking elections, and none of them was making basically the claim that the AKP party did not win the elections. It was much more contested what is the meaning of democracy. And the idea was democracy is not simply the majority rule. And this is why I do believe it's quite important to see exactly this contestation. And it was not by accident that in a certain way, the message of the government was, probably you represent society, we represent the nation. And we represent the nation, basically mobilizing the nation against the internal and external enemies, and you end with another use of force inside and outside of the country, because I do believe this is one of the ways the governments may need to re-legitimize themselves. It was about democracy. At the end of the day, the government tells them is about majority and who wins elections. Bulgarian case, from this point of view, by the way, Ukraine is a very interesting story, because when people talk about the message of the horizontal movements and nonviolent movements, quote, quite important is to know that at the moment when any type of a protest get really violent, all the story of a horizontal movements disappear immediately. When people are armed, they are not networks. They organize in a different way. And basically on Maidan, from the beginning, when people have been much more nonviolent protests, and at the end when basically they have been armed in resisting the regime, they were totally two different organizational creatures occupying the same place. My last story is about Bulgaria, which basically you don't know much. There was a major protest in Bulgaria. And the interesting story about Bulgaria, where people have been marching for more than several months with no political leaders, no political speeches were done for all this period, not a single political speech, just every night people walking on the street. At some point they could be 100,000 people, in the other they could be 1,000 people, but every single night. What is interesting is, why you protest in a country that for the last 20 years have been run by a protest vote? Starting with 1991, Not a single time a government was re-elected in Bulgaria. Even more, Bulgaria is a place where the newly formed parties were very easily coming to power. By the way, for the last 25 years, Bulgaria had been governed from the left, from the right, from above when the king came and won the elections, from below when the bodyguard of the king came, made party and basically won the elections. The basic problem is why you protest if any time basically you change the government or even form a new party. And this was part of the message of the Bulgarian elections, that changing governments or even forming new party is not enough in order to have a legitimate democracy in the eyes of the people. Why am I saying this? And I'll go to the two, in my view, interesting questions that come out of this, and I want to finish with this. The first question that came to me and which I found very important exactly because of the global nature of this is, do the fact that you have elections everywhere was part of the strength of this movement or part of their vulnerability? When you talk to the government people, and it doesn't matter, is it in Bulgaria, is it in Russia or in Turkey, they're going to tell you something very simple. It cannot be spontaneous if it is everywhere. By the way, one of the impossibility to think about the spontaneous nature of the protest is extremely important. Normally, we tend to see the government as very cynical. Basically, many of the Western analysts believe that when President Putin is saying that the American embassy organized the protests in Moscow, he knows that this is not true, but he's saying this for practical reasons. In fact, he believes it. And one of the reasons to believe it is based on the fact that you have governments that does not and cannot understand anymore the spontaneous nature of the protests, because his major argument was, if people really go on the streets, would they are totally discontented, and when basically they don't have hope, why they were not on the streets in the 1990s? And the only difference was that in 1990s we have been the allies of the West, and now we are not. So let's make in the last minute my last argument. What makes these social movements to believe that being nonviolent, horizontal, occupying the streets, they can change politics and society? And my major argument is that this is very much related to the fact that our very nature of the social change now have been formed in the technology sector and by the IT people. By the way, IT people have been overrepresented in every single protest. In the technological world, disruption is positive. You disrupt without basically needing to know what is going to be the next thing to be done. Disruption by itself is perceived as positive. I do believe in societies. This is not exactly like this. So what we face today is not simply a handful of authoritarian leaders trying to press and suppress the people, but you have a conservative backlash against this. In a certain way, some of the protests allowed a parties of stability and parties of order to be basically constituted. So paradoxically, protests succeeded to polarize societies, but some of these type of reactionary forces could be the biggest beneficiaries of this polarization. Thank you.
Merci beaucoup. Excusez-moi. Je passe tout de suite la parole à Umut Özkırımlı, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Lund.
I have only 15 minutes, so I would like to first apologize for not doing this in French. Je suis francophone, mais comme je n'ai pas utilisé mon français dans ma vie académique, c'est un petit peu rouillé, donc je vais faire en anglais. And the second disclaimer, actually, because I agree with Pablo, who mentioned this morning in the closed session that every time we try to theorize these movements, they lose some part of their essence. And I agree. But on the other hand, I also think that we need to try to understand them. So I will just present you a much more, well, let's just say, a theoretical framework in a way, a work in progress in many ways, to try to understand what was specific about the Gezi events in Turkey, but also, you know, I mean, the main starting point, the point of departure of the whole thing is to see, to grasp the synergies between the global protest cycles that we will talk about during the next 48 hours, or and, of course, the accompanying transnational social action repertoires, and local dynamics and national specificities. Because, you know, without these two, I mean the media reaction, the immediate media reaction to Gezi events as a Turkish Spring or the last phase of an Occupy, you know, movements and all of that were, I mean, I still believe, just simple hasty analogies and generalizations. So in many ways, the argument of this work in progress with a colleague of mine, Spiro Sofos, who is also based in Lund, is that Gezi actually constitutes a moment, a collective action moment in a broader protest cycle in Turkish politics, which includes the following, well, it's this list is not exhaustive, but four main characteristics. The neoliberalization of Turkish economy in the last 13 years of AKP rule, but a process which has started in the 80s. And second, the authoritarian transformation of the AKP government and of key political institutions. And third, increasing political polarization between emerging urban classes, some of them created by the AKP, just as pawns in many ways of the AKP's economic policies and quite dependent on them, but some others, unintended, you know, some kind of, you know, unintended consequence of this growth is the, you know, the already existing capitalist classes have benefited hugely by the economic growth which characterized the first two terms of the AKP rule. Now, the polarization between these, the new emerging classes, and, of course, the conservative majority, which constitutes the AKP's main constituency, which never took part, by the way, in the Gezi protests. And the fourth point, which was characteristics of the Turkish context, was the lack of a credible and effective opposition in the political system. So, in many ways, then, despite the broad structural and institutional changes and strategic or ideological, we can't go into the details of this, but the reform process of the AKP's first period has led to a system where actually, you know, there was a plurality or multi, you know, proliferation of different ideas and discourses, but starting from 2009-2010, the public space for the airing of this content, of expression of dissent, was becoming narrower and narrower. So Gezi was in many ways an explosion and kind of a moment, you know, that's why we call it a moment, but what was specific to Gezi in contrast to prior or previous movements of protest, which were of much smaller scale, like the movements to stop the gentrification of Tarlabaşı in Beyoğlu, for instance. There was, or the kissing protest in the Ankara subway because, you know, of the mayor was, you know, one of the municipalities in Ankara actually banned the public show of affection, in, let's just put it in a politically correct way. So there was a small crowd of people who were kissing in public just to protest this. But of course, Gezi was this massive event. I'm not going to go into the figures, but let's just say that there was 3.5 million people participated in it, according to official figures, in all but one province of Turkey. So Gezi was specific in the sense that it was a moment during which the class and status boundaries that had structured previous protests or previous ordinary forms of politics were challenged and dissolved, even if, you know, temporarily or momentarily. And two, Gezi was in that sense, and this is something, you know, this is where our theory becomes a little bit eclectic, you know, trying to bring together Badiou and classical American social movement theories. Was an event in many ways, in the sense in which Badiou used the term, in the sense that it was not, you know, based on organizations or political planning, but it was just a haphazard outcome of a present situation, a manifestation of what he calls, you know, this eventual ruptures. And in that sense, and this is the third point which made Gezi specific compared to other things we have seen in Turkish history in many ways, political history, it was a laboratory of experimentation looking for a new type of politics away from politics. This was a rejection of what people considered in many ways to be corrupt and irrelevant political actors. In order to understand this, then we rely on a model which of collective, you know, this is a long tradition of in social movement studies, the collective action framing. It has many versions of it, but the one that we found the most useful, although I must say, of course, we can't discuss these things in 7-8 minutes, but the one developed by the American political scientist William Gamson in 1990s, which has three frames of collective action, which talks about injustice, agency, and identity. I will just present, and I know I'm speaking too fast, but you know I have to, but then you know I'm available for 2 days, and I have a PowerPoint presentation I can share with you. So just, you know, just now shooting the ideas. Now, what he understands by injustice, what he defines, is a sense of moral indignation on the part of those, you know, who take part in this collective action. It's not simply an intellectual, you know, exercise or judgment, but it is what he calls a hot cognition, you know, something that puts fire in the belly. And that was very specific in the case of Gezi. I mean, it was a total identification. The second frame is agency, which refers to the fact that the sense of collective efficacy, the belief on the part of ordinary people who take part in this protest that they can change something, they can do something. Vis-a-vis, you know, this moral indignation, this injustice that they perceive. And the third part is much more common to the social movement literature and exists in different literatures. You know, it forms a crucial part of Alberto Melucci's theories and all of that. It's identity. So the act of becoming a part of we, which can do something, so which can exercise this agency. And obviously, you know, this thing about the transformative nature of participation in these movements. Now, very quickly, how did we see these things happening in Gezi? Of course, we were there. We talked to people and all of that. Just to mind you that I'm still talking about an analysis of Gezi. I'm not talking about the aftermath of Gezi. So, you know, this is something that we have to probably discuss in a separately. But the injustice thing, for instance, it was, you know, Gezi was among, you know, first and foremost was the expression of a widespread grievance, a sense of indignation, and far exceeding, you know, environmental concerns, which you know, the way in which it started. And it soon actually zoomed in on a concrete target, the personality of Prime Minister Erdogan, which made it actually, it's also exists in Gamson's scheme as well. The concreteness of the target makes the movement much more viable and makes it endure longer in many ways. This injustice thing also led to, of course, you know, in the face with violence, which was created by the enemy figure, led to mythologies of struggle and of resistance. Mythologies, but also, you know, real acts of, you know, resistance and struggle in many ways. So there is also this aspect of what in the field of nationalism studies we refer to as constitutive violence. There is a moment, you know, in which, you know, each nation comes into being through violence in many ways. So in this case, for instance, the constitutive character of the symbolic violence, but also the physical violence, the material violence inflicted by the government and the riot police. This led to, of course, novel forms of solidarity that we've never seen before in Turkey, like sharing of, you know, internet passwords, advice on how to, you know, protect yourself against tear gas. Lots of examples. Now, what was uniting these narratives, and here I go to a point that Nilüfer made, yes, psychoanalysis is, I think, important in these things. So this Lacanian Le Point du Capitaine, of these all injustice frames, of all these people who were, you know, brought together, was a sense of disenchantment, a sense of being cheated. Something that we also feel, you know, as public intellectuals in many ways, we're discussing about that in the, about the case of a prominent left-wing intellectual who was talking about this sense of being cheated. The second part, the agency part, was, of course, you know, the whole event itself. I mean, Gezi was a unique platform for interaction for different groups which have never been together before. So it was, yes, I mean, you know, the Kurds and the Alevis, the Turkish nationalists have all come together. It was a new political organization. Here, we quite like, actually, Nilüfer's term, rehearsal of new citizenship. That was a rehearsal. I mean, we don't know whether it will materialize, but it was a very concrete manifestation of this. And I think Buket is going to talk about this, was this, the sense of agency and empowerment was the nightly forums, the park forums, where people were gathering spontaneously and trying to take decisions regarding various local but also much more general issues. And in this sense, the protest movement basically opened up spaces for exchange and translation, you know, in the sense in which we use in cultural studies. Where the pious met the secular, the libertarian, the conservative. You know, we also have this example of Earth, iftars, where, you know, because it coincided with the month of Ramadan, they established this open iftars in Istiklal, where everybody, including the atheists, took part, etc., etc. Now, so this led to, in a way, for many participants, and this is something that we will try to trace now, talking about the future, with a survey among the participants, actually, it became a rite de passage, a rite of passage for many people who have never took place in political demonstrations before in their lives. It was, you know, in the sense, you know, in the stereotype or prototype, you know, it's a quintessential example of the, you know, what anthropologist Victor Turner called the sense of communitas, you know, a liminal moment where, you know, you feel that you form a community. Now, we saw later on that this was really ephemeral, temporary, but at least at that moment it existed. We know about the sense in which, you know, how this whole process transformed people and all of that. Now, what are the implications of this for the future? That's something that we need to see, because most of the things that I talked about to explain, to understand what was happening there in 2013 do not exist right now. One, and this is how I will conclude, this... sense of injustice is still shared, but it doesn't bring people together. Most importantly, I would say, reflecting aloud in many ways, thinking aloud, the sense of agency is not there anymore. For some group of people, there is a desperation, despair in many ways, hence the pessimism that we talked about today. But also, you know, some kind of apathy and indifference of, you know, regarding what's going on in the Southeast right now. I mean, you know, several cities are under curfew for several days, and we lost that sense of connection we had between the East and the West. Because during Gezi, people, when something was happening, there was a demonstration where a Kurdish boy was killed, Medeni Yildirim. People in hundreds and thousands were marching in Istanbul, shouting its name, which was unheard of in Turkish Republican history of 90 years. Right now, one children per day is killed in Turkey, and there's nothing apart from hashtags and social media. And identity, it is dependent on the other two. If we don't have the sense, the common sense of indignation and the belief in agency, how can we have a common identity? Hence the question mark. Thank you.
Thank you very much. You are perfectly exact. So now Leila Seurat, who is a postdoctoral researcher and researcher associated at the CERI, which is a Center for International Research.
Alors, je vais vous parler du nouveau mouvement social au Liban, donc qui est né le 17 juillet dernier, au moment où le gouvernement libanais a annoncé la fermeture de la décharge de Narmé, donc Narmé qui est une municipalité située donc, tout près de Beyrouth, qui jusque-là recevait les déchets de la ville de Beyrouth et qui donc a fermé ses portes le 17 juillet. Et donc depuis cette date, les déchets de la ville de Beyrouth se sont donc entassés dans la ville et progressivement, à partir du début du mois d'août, la ville de Beyrouth est devenue une véritable poubelle géante. Voilà, donc les plusieurs collectifs se sont créés à la faveur de cet événement. J'en retiendrai pour ma part deux, parce qu'il y en a quand même, il y a deux mouvements qui sont quand même plus importants que les autres en termes d'effectifs, de moyens, de ressources, etc. Le premier, c'est Talat Rehotkom, c'est-à-dire le, qui veut dire en arabe vous puez, qui a aussi été appelé You Stink, donc qui est assez connu, qui est celui qui a émergé en premier. Et ensuite, vous en avez un deuxième qui s'appelle Bednan Haseb, qui veut dire donc nous voulons des comptes, et qui lui a été créé un peu plus tard au moment des grandes manifestations de la fin du mois d'août. Voilà. Donc ces deux collectifs ont organisé l'ensemble des manifestations à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Et de nombreux Libanais se sont mobilisés, surtout au moment de la manifestation du 29 août, qui avait réuni à peu près environ 70 000 personnes, ce qui fait quand même beaucoup pour le Liban. Et donc, se sont réunis autour de slogans qui rappelaient les mobilisations et révoltes des printemps arabes, puisque les manifestants réclamaient la chute du régime, reprenaient un vocabulaire qu'on a retrouvé au moment des printemps arabes, irhal, irhal, donc partez, partez, et iskat al-nizam, la chute du régime, huriya, huriya, liberté, liberté. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord... la spécificité de ce nouveau mouvement social, sa nature, ses revendications et ses divisions internes. Puis ensuite, vous parlez un petit peu de la relation entre police et manifestants, puisqu'il me semble que l'analyse des mouvements sociaux ne prend que rarement en compte le facteur de la répression, qui est pourtant central pour expliquer autant l'augmentation d'une mobilisation que ses limites ou son échec final. Voilà, donc je commencerai par vous parler. Il me semble que c'est juste très important de revenir quelques minutes avant de m'intéresser à ce nouveau mouvement social, à la question de la place des mouvements sociaux dans les travaux de sciences sociales qui portent sur le Liban. Puisque, en effet, pendant très longtemps, les travaux qui ont porté sur ce pays se sont concentrés exclusivement sur la nature de ce régime politique, qui est donc une démocratie consensuelle, appelée aussi une démocratie consociative, et aussi sur d'autres éléments qui étaient notamment la place des puissances régionales et des acteurs régionaux dans les dynamiques de la guerre civile. Donc la majorité des travaux se sont concentrés sur l'explication de la guerre civile, tant par les facteurs internes au régime politique libanais, c'est-à-dire donc cette démocratie consensuelle, ou par le poids des acteurs régionaux, en prenant donc très rarement en compte l'analyse de mouvements sociaux, de tout l'univers aussi des mouvements syndicaux, qui étaient très largement absents des travaux de sciences sociales, jusqu'aux années 90, puisque après la guerre civile, de nombreuses associations sont nées, qui étaient donc certes des associations minimes en termes de nombre et qui restaient assez marginales, mais certains chercheurs ont quand même considéré que c'était important de faire porter leurs travaux sur ces mouvements, ces nouveaux mouvements sociaux qui notamment s'intéressaient à des causes à l'écologie déjà, à l'environnement et aux droits de l'homme. Donc ces chercheurs ont considéré que finalement il fallait tout autant s'intéresser à ces mouvements, bien que très marginaux, puisque ces mouvements pouvaient tout autant expliquer les dynamiques du régime politique libanais et peut-être poser la question de l'émergence d'une société libanaise fondée sur sur la citoyenneté, qui est en fait une notion très absente du terrain libanais. Donc, pour revenir sur ce mouvement social, alors, est-ce que ça marche toujours ? Excusez-moi. Oh là là, attendez. Je crois qu'il y a un problème de connexion Internet. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, pour revenir sur ce mouvement social, je dirais que pour la première fois, c'est un mouvement qui a réussi à transcender véritablement les clivages communautaires et confessionnels de la société libanaise. Et pas seulement les clivages communautaires et confessionnels, mais aussi les clivages politiques qui prévalent sur la scène politique libanaise depuis 2005. Parce que, donc, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais depuis 2005, alors que certains analystes avaient au départ 2005, c'est la date de l'assassinat du premier ministre Rafik Hariri et du départ des troupes syriennes du Liban. Et certains analystes avaient considéré qu'on était là face à une possible démocratisation du Liban, alors que, en fait, cette période a ouvert la voie à une polarisation de la scène politique libanaise en deux camps, c'est-à-dire le camp du 14 mars, qui était donc celui de l'ancien premier ministre Rafik Hariri, et le camp du 8 mars, qui était, pour schématiser, favorable au Hezbollah. Donc, ces deux camps, il y a des puissances régionales, surtout après la guerre de 2006, de l'été 2006, entre Israël et le Hezbollah, qui a exacerbé la polarisation de ces deux camps. Ces deux camps sont chacun donc soutenus par des puissances régionales, pour le camp du 8 mars, l'Iran, et pour celui du 14, l'Arabie saoudite. Et donc, pour la première fois, on a véritablement affaire à un mouvement social qui réussit à transcender ces deux camps. Alors, les militants de ce mouvement social, donc qu'il s'agisse du collectif « Nous voulons des comptes que vous puez », ne sont identifiables clairement, puisque chacun provient d'un de ces deux camps, en tout cas était affilié, ne serait-ce que d'une filiation idéologique et inspiration idéologique à l'un de ces deux camps. Par exemple, pour le militant Ahmad Bazi, donc, parce que on disait tout à l'heure que ces nouvelles formes de mobilisation étaient souvent donc les militants se mobilisaient autour de symboles et rarement autour de personnalités. Là, on a clairement affaire à des personnalités identifiables. Pour vous puer, on a le militant Ahmad Bazi, qui lui est proche idéologiquement du 14 mars, et pour le collectif Nous voulons des comptes, nous avons par exemple la figure de Sharbel Nahas, qui était donc affilié au Parti communiste libanais et proche donc plutôt du 8 mars. Et donc nous avons affaire à des militants qui sont donc qui ont des affiliations passées en tout cas avec ces deux grands partis, mais qui pour la première fois se retrouvent autour de mots d'ordre différents, c'est-à-dire que pour la première fois au Liban, alors voilà, là je vous montre un petit peu des images que vous voyez, on sort du clivage confessionnel et on se réunit autour d'abord d'une première revendication commune qui est une revendication écologique, donc environnementale, c'est la crise des déchets. Et donc, comme je vous le disais, pour la première fois, on sort également des deux camps, 8 mars, 14 mars, puisque c'est la majorité, la totalité des leaders politiques, y compris des ministres, de l'ensemble des ministres du gouvernement, qui sont menacés. Et c'est donc pour ça que... je vais passer plus vite sur les images, parce que j'ai l'impression que ça coupe à chaque fois. Voilà, c'est donc pour ça que ce qui est intéressant de noter, c'est la réaction des différents leaders et des différents ministres, puisque leur réaction spontanée a été souvent de soutenir en fait ces revendications. C'est-à-dire que le Premier ministre a parlé des ordures politiques, alors qu'il est lui-même Premier ministre. Le président du Parlement, Nabih Berri, a dit que finalement ces revendications, il les partageait, puisque son mouvement, qui est donc le mouvement Amal, le mouvement chiite, lui aussi milite pour une déconfessionnalisation de la scène politique libanaise depuis des années. Le Hezbollah, pareil, donc a considéré qu'il n'allait pas soutenir officiellement ces mobilisations, mais qu'il partageait toutes les revendications sociales, mais que pour l'instant, il restait occupé sur d'autres fronts, puisqu'il est le Hezbollah, comme vous savez, est occupé en Syrie, puisqu'il combat aux côtés de Bachar al-Assad. Et le Hezbollah considère également que la lutte contre Israël est toujours une de ses priorités, donc il ne peut pas aujourd'hui s'engager dans un mouvement social. Voilà, donc on a affaire, voilà, comme vous voyez là sur ce panneau, on a la majorité des leaders politiques de la scène politique libanaise donc qui sont mis en cause. Voilà le président du Parlement, Nabih Berri, qui est donc associé à un voleur, puisqu'il a ici sa petite coiffe d'Ali Baba. Alors, deuxième chose, on passe aux revendications. Comme je vous disais tout à l'heure, les revendications, on est très vite passé d'une revendication purement écologique et environnementale à des revendications politiques et sociales plus larges. La première question sur laquelle se mobilisent les militants, c'est la demande d'État, puisque c'est clairement la crise des ordures qui a fait prendre conscience de nouveau aux Libanais que l'État était totalement défaillant et absent des services publics les plus élémentaires. Et c'était déjà le cas, de toute façon, depuis les années 90, puisqu'il y a pour Beyrouth, c'est un peu moins le cas, mais si ce n'est la banlieue sud. Mais vous avez de larges zones qui sont totalement où on a peu d'eau et pas d'accès non plus à l'électricité. Donc c'est à nouveau cette demande d'État qui apparaît dans les mobilisations. On voit là donc ce qu'est la corruption qui est dénoncée. Donc on façade, sarkar, c'est-à-dire la corruption et vol, c'est-à-dire voilà les deux griefs dont on accuse précisément le gouvernement. Et outre la demande d'État, c'est aussi la question de la réappropriation de l'espace public qui occupe essentiellement les militants. Puisque, donc là je vais faire un petit retour arrière sur l'octroi par le gouvernement libanais à la fin de la guerre civile à une société privée qui s'appelle Solidaire. Société privée qui est clairement en fait sous le patronage du camp du 14 mars et de, enfin à l'époque c'était donc Rafik Hariri, c'est lui qui a reconstruit entièrement le centre-ville de Beyrouth. Donc là vous avez une photo du centre-ville et c'est depuis cette date donc les militants considèrent, enfin les mobilisations en tout cas portent sur cette question de l'espace public, qui considèrent que en fait on leur a largement exproprié outre ce centre-ville. C'est la question aussi. Alors voilà, vous avez une photo du centre-ville avant et après. Et cette vision de l'espace public qui véhicule en fait une dimension, enfin un racisme social, a exacerbé les tensions et les foules au moment des mobilisations, les dernières mobilisations donc de cet été, puisque vous avez ce monsieur qui s'appelle Nicolas Chamas, qui est directeur de l'association des entrepreneurs de la ville de Beyrouth, qui a parlé, qui a dénoncé les mobilisations au cœur du centre-ville. Donc c'est aussi au cœur du centre-ville que se situe le lieu de pouvoir. Donc c'est très important de comprendre que le Parlement et le Sérail sont aussi là où donc étaient les deux places sur lesquelles étaient mobilisés les manifestants. C'est les lieux de pouvoir sont aussi situés au centre-ville, donc ce centre-ville dont on accuse. Dont les militants accusent l'expropriation et la gestion par des entreprises privées. Donc ce monsieur qui a parlé de Abu Rahoussa, c'est-à-dire il a dit, en gros, vous les militants, vous êtes en train de nous faire un centre-ville au rabais. Et cette vision, donc, ce racisme social a provoqué la colère des manifestants qui ensuite ont organisé un souk populaire au cœur du centre-ville en disant, voilà, nous maintenant on fait le marché populaire, donc le souk al-Rissa, c'est-à-dire le marché au rabais. Pour réagir aux propos de Nicolas Chamas. Donc voilà, on a pu vendre des produits pas chers, comme du picon, enfin tous les produits qu'on trouve dans les pays du tiers-monde. Voilà. Alors, pour terminer sur ce mouvement social, je dirais pour aller vite qu'il est quand même divisé en interne. D'abord divisé sur la question sociale, puisque comme je vous disais, d'un côté vous avez Yousting, donc vous puez, qui lui considérait qu'il fallait rester sur des thématiques écologique et que l'élargissement des revendications allait conduire le mouvement à sa perte et qui accuse les autres membres du collectif Nous voulons des comptes d'être à la solde d'une idéologie communiste et donc vous avez un vrai clivage gauche-droite entre Yousting et Nous voulons des comptes. La deuxième cause de division interne, c'est sur la question de la personnalité de Hassan Nasrallah, puisque Nous voulons des comptes ont considéré que Hassan Nasrallah ne pouvait pas apparaître au même titre que les autres membres, les autres leaders politiques du Libanais sur les panneaux, puisque Hassan Nasrallah n'avait pas du tout joué le même rôle à la sortie de la guerre que les autres leaders politiques. Donc pour Nous voulons des comptes, la personnalité de Hassan Nasrallah est une ligne rouge, alors que pour l'autre mouvement qui est Yousting, donc vous puez, à considérer que non, Hassan Nasrallah avait autant les mains mouillées dans les affaires de corruption et qu'il ne fallait pas attiser, justement s'inscrire encore dans des clivages confessionnels et que la totalité des leaders libanais devait être remis en compte. Alors, maintenant, j'ai une minute pour vous parler en fait du sujet essentiel de mon travail, donc qui porte sur la police et les manifestants. En deux mots, ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'il y a eu quand même une répression assez importante. D'abord en termes de bombes lacrymogènes, coups de bâton, camions à eau. Enfin, une répression importante que les militants ont considéré, cette répression qu'ils ont considérée comme une répression féroce, s'expliquait par le système politique libanais, c'est-à-dire qu'eux, ils ont mis l'accent sur ce facteur du régime politique en disant c'est parce que tous les leaders politiques libanais étaient mis en péril pour la première fois, parce que notre mouvement est pour la première fois un mouvement qui transcende les clivages communautaires et partisans. Voilà, c'est cette, pour eux, c'est cette terreur qu'ont ressenti la plupart des leaders politiques qui explique la mesure de la répression qu'ils ont subie. Je crois que... D'accord, c'est fini. Donc, j'ai pas une minute pour terminer ?
Non, non. Bon. On a vu consommer.
Ok, bon. Bah alors, si pour la discussion, vous voulez parler plus précisément de ce sujet, je suis prête à y revenir. Voilà.
Merci beaucoup, Leïla. Non, je suis obligé de faire ça parce que après, à la fin, c'est d'autres qui vont être obligés de faire 10 minutes. Bon. Alors, là, je donne la parole à Mahmoud Hussein, mais qui est en fait un double chercheur, qui est composé de deux chercheurs, et c'est l'un des deux qui va parler, l'autre est dans la salle, et qui est un intellectuel égyptien et toujours vif depuis les années 50 dans d'autres conditions politiques dont vous vous rappelez le nasserisme, etc., et qui, donc, est un observateur extraordinairement proche de Tahrir.
Pour apprécier l'événement Tahrir à sa juste valeur historique, il nous semble nécessaire de rappeler trois choses. Premièrement, qu'il a été précédé par d'autres soulèvements. Deuxièmement, que chacun de ces soulèvements a marqué de son empreinte la conscience populaire. Troisièmement, que Tahrir a représenté dans cette série un tournant majeur. Nous nous situons ici dans une conception de l'histoire qui n'est pas enseignée dans les manuels scolaires. C'est l'histoire racontée du point de vue des gouvernés, les gouvernés qui, d'un soulèvement à l'autre, s'éveillent à une conscience autonome en s'arrachant à l'emprise sacrale des gouvernants. Nous vous convions donc, en 10 courtes minutes, à un voyage dans la psyché du peuple égyptien au cours des 2 derniers siècles. Les gouvernés égyptiens ont eu un long chemin à parcourir avant de déboucher sur la place Tahrir. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, leur paysage mental est dominé par la toute-présence de l'au-delà. L'ordre des choses ici-bas ne fait que refléter la volonté divine. Le gouverné ne s'appartient pas. Il ne possède pas de prise personnelle sur sa propre vie. Il n'a ni conscience subjective, ni volonté individuelle. Son destin est scellé par un décret céleste et sa démarche terrestre commandée par le cheikh de sa communauté traditionnelle. Entre sa soumission à Dieu et son obéissance à son cheikh se situe son allégeance au sultan ottoman. Ce dernier est perçu comme l'ombre de Dieu sur la terre, se soumettre à lui, à ses représentants, aux gardiens de son pouvoir, bref, aux gouvernants, c'est se soumettre à Dieu. Dans le cadre de cette doxa, le pouvoir des gouvernants n'est donc pas seulement exercé sans limite et sans contrôle, il est de surcroît accepté par les gouvernés comme allant de soi. Contre un tel pouvoir, les gouvernés ne conçoivent même pas de se soulever. Il peut leur arriver par contre de se révolter dans des situations devenues intenables. Mais quand ils le font, ils vivent leur propre révolte comme une aberration, comme un geste de désespoir, comme un péché que leur conscience réprouve alors même que la situation la rend inévitable. Cette vision du monde va subir un formidable ébranlement en 1798 du fait de l'expédition française conduite par Bonaparte. Ce dernier installe un pouvoir qui brise la continuité entre le trône de Dieu dans les cieux et le règne des hommes sur la terre. Il sépare le politique du religieux, dissocie la raison de la foi, isole le monde matériel de la sphère spirituelle. Les Égyptiens vont rejeter globalement cette vision des choses. Les gouvernants français sont des ennemis de Dieu. La révolte contre eux devient non seulement licite, mais sacrée. En mars 1800, l'armée française fait face à un soulèvement qui regroupe non seulement l'ensemble des quartiers du Caire, mais aussi des contingents turcs et des troupes mamelouks. Pour la toute première fois de l'histoire, les sujets du sultan se retrouvent en situation de familiarité avec la caste des seigneurs. Ils découvrent sa vulnérabilité, ses faiblesses, ils ne l'oublieront pas. Après le départ des Français, un nouveau soulèvement populaire aura lieu, cette fois contre les seigneurs mamelouks eux-mêmes. Tous les quartiers du Caire vont s'unir sous une même direction. Ils réclament ni plus ni moins qu'un droit de regard sur le prélèvement des impôts et sur la dépense publique. Ils seront soutenus et conseillés par le chef du contingent albanais des troupes du sultan, le général Mohammad Ali. On assiste à une alliance durable entre des sujets et des militaires, alliance dont l'efficacité finira par imposer au sultan la nomination de Mohammad Ali comme gouverneur d'Égypte. Il s'agit d'un remarquable succès, mais il faut voir ses limites. En le remportant, les gouvernés ne se conçoivent pas encore comme porteurs d'une volonté autonome. La justice qu'ils invoquent n'est pas perçue comme une revendication propre. Elle est perçue comme un commandement de Dieu qu'il rappelle au sultan. On est encore dans le cadre de la doxa musulmane traditionnelle, dans le respect indiscuté de la légitimité sacrale du sultan. C'est à la fin du XIXe siècle que cette barrière, à son tour, est ébranlée. L'Égypte a acquis une grande autonomie vis-à-vis du sultan. Elle est gouvernée par un vice-roi, descendant de Mohammed Ali, dépositaire à son tour de la légitimité sacrale. Face à lui, la société a changé. On a un nombre croissant d'Égyptiens qui sont des fonctionnaires de l'État ou qui assument des professions libérales ou qui s'implantent dans le secteur de la propriété foncière. Il s'agit là d'une catégorie sociale qui se détache du monde communautaire traditionnel pour constituer le noyau d'une élite séculière. En son sein, les individus commencent à assumer une forme de présence personnelle au monde. Ils ne sont plus simplement agis par des forces qui les dépassent, ils font leur premier pas en tant qu'acteurs de leur propre vie. Confrontés à la domination financière de l'Europe et soumis au pouvoir autocratique du vice-roi, ils commencent par s'unir autour d'une exigence commune, faire reconnaître leur dignité d'Égyptien. En 1882, Ahmad Arabi, un officier égyptien, prend la tête d'une rébellion armée qui veut imposer au vice-roi des réformes en ce sens. Le peuple va se soulever pour le soutenir à lui contre le vice-roi. C'est un fait sans précédent. La notion de légitimité se fracture. Aux yeux des gouvernés, Arabi incarne une nouvelle légitimité, celle du Zaïm, un chef issu des rangs du peuple. C'est une légitimité hybride, mêlant la défense de la patrie au jihad traditionnel, le national au religieux. Elle fait vaciller la légitimité sacrale du vice-roi. La Grande-Bretagne mettra fin à l'aventure en occupant l'Égypte. 40 ans plus tard, c'est contre elle qu'une nouvelle figure de Zaïm va apparaître. Saad Zaghloul n'est pas un militaire, c'est un homme politique modéré et légaliste. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il veut obtenir la fin du protectorat britannique en invoquant le nouveau droit des peuples à l'autodétermination. Comme l'occupant britannique lui dénie toute autorité pour le faire, il a l'idée géniale de répandre dans le pays un formulaire imprimé que chaque Égyptien est appelé à signer pour lui conférer un mandat indiscutable, lui permettant de parler au nom de l'Égypte dans les instances internationales. Les Égyptiens répondent en masse, avec enthousiasme. En quelques semaines, Zaghloul apparaît comme le Zaïm, le père de la nation, que tous attendent depuis la défaite d'Arabi. Mars 1919, Zaghloul et ses lieutenants sont arrêtés et exilés. La mesure déclenche un soulèvement d'une ampleur proprement nationale. Toutes les classes sociales vont être progressivement entraînées. Les étudiants, les élèves du secondaire, les ouvriers d'usine, les enseignants, les fonctionnaires, les professions libérales, les avocats, les juges. Manifestations et grèves s'étendent dans tout le pays. C'est toutes les villes, une grande partie des campagnes. La répression est impitoyable, mais ne fait qu'aiguiser les tensions et multiplier les colères. En avril, Zaghloul est libéré et autorisé à partir pour Londres. le pays tout entier s'organise spontanément pour soutenir sa démarche. Des milliers d'initiatives fusent au niveau de chaque quartier, de chaque village, allant de l'action pacifique à l'action violente, de la pétition de principe au sabotage des lignes ferroviaires. Le soulèvement est parti pour durer 3 ans, avec des flux et des reflux, scandés par des moments de répression sanglante et d'autres où la Grande-Bretagne fait des concessions minimales. En février 1922, Londres fait enfin une concession majeure. Elle reconnaît l'Égypte comme État formellement souverain, même si elle continue d'y maintenir des troupes. La conscience des gouvernés a fait un nouveau pas en avant. Non seulement ils ont acquis une confiance nouvelle vis-à-vis de l'occupant, mais ils ont établi avec le nouveau Zaïm un lien de type inédit, un lien contractuel, où leur marge d'initiative et d'action est qualitativement plus grande qu'avec Orabi 40 ans avant. Il s'agit d'un lien résolument moderne, formulé dans un registre laïque, un lien démocratique. À partir de 1952, un troisième type de Zaïm émerge, c'est le Raïs, président. Nasser, qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, va mettre fin à la parenthèse démocratique ouverte par Zaghloul. Il va monopoliser l'initiative politique au sommet, en bloquant toute initiative politique venant de la base. Son action consacre la suprématie de l'État au détriment de la société, la souveraineté nationale au détriment de la souveraineté populaire. Pour y parvenir, il mène une politique de dignité nationale qui comble une longue espérance du peuple. Servi par une nouvelle conjoncture internationale, il obtient l'évacuation des dernières troupes britanniques, nationalise le canal de Suez, tient tête à l'agression tripartite. La nation devient alors une valeur transcendante, une totalité essentialisée, supposant pour se perpétuer l'unanimité de tous ses membres. Le Raïs, qui incarne cette unanimité, est investi d'une aura sacralisée et les gouvernés sont incités à abdiquer toute velléité individuelle afin de lui permettre de réaliser le destin national. Mais cette sacralité est beaucoup moins inconditionnelle que celle dont jouissaient les anciens sultans. Indexée sur la mystique de la fierté nationale, elle dépend à la longue des succès que Nasser et ses successeurs obtiennent sur le terrain. Dans la mesure où le régime multiplie les compromis et accumule les échecs, il trahit cette mystique. C'est alors tout l'édifice de sa domination idéologique, de la tutelle enchantée des gouvernants sur les gouvernés, qui est souterrainement miné. Or, les gouvernés comptent maintenant une masse critique d'individus qui sont définitivement responsables d'eux-mêmes. Il s'agit d'une nouvelle génération d'acteurs sociopolitiques qui ne sont plus entravés par les mythes de la prédestination et de la fatalité, par le respect instinctif des hiérarchies, par le conformisme communautaire. Ils sont ouverts sur le monde, ils commencent à accueillir l'originalité, la rupture, l'imprévu. Chacun d'eux parle à la première personne, pense par lui-même, agit en son propre nom. Ce sont des Égyptiens qui sont aptes désormais à exiger le statut de citoyen. Mais ils ne le savent pas encore. Avant d'oser le penser, il leur reste un obstacle à franchir, la crainte de la répression. Car si la tutelle idéologique du dernier Raïs, Moubarak, est en miettes, la chape policière de son régime reste terrifiante. Elle infuse la peur jusque dans le quotidien des gens. Elle bloque toutes les voies de communication horizontale par où les gouvernés peuvent échanger entre eux, par où leurs multiples doutes personnels peuvent se rejoindre, se conjuguer, produire une conscience collective. Les Égyptiens pensent de plus en plus les mêmes choses, mais ils l'ignorent. Chacun d'eux continue de se croire seul, impuissant, désarmé. C'est cette chape de terreur que le soulèvement de Tahrir va dynamiter. L'enchaînement des événements qui produit soudain l'explosion révolutionnaire répond à une alchimie mystérieuse. Il n'a été prévu par personne. Il se présente à ceux-là même qui en sont les principaux acteurs comme un miracle. Mais en advenant, il précipite et cristallise la prise de conscience collective de ce qui, jusque-là, n'a été que secrètement pressenti. Sur la place Tahrir, des millions d'Égyptiens se découvrent différents de ce que, la veille encore, ils croyaient être. D'où la formidable émotion qui les saisit, la découverte éblouie de leur liberté, à la fois comme une surprise et comme une évidence. Des millions d'Égyptiens réalisent qu'en parlant chacun pour soi, ils parlent les uns pour les autres. Ils vibrent à l'unisson. C'est alors seulement qu'ils prennent conscience de constituer ensemble l'instance dépositaire de la souveraineté nationale. La nouveauté radicale de l'événement Tahrir est là. Il arrache aux gouvernants leur dernier lambeau de légitimité sacrale. Il instaure le peuple comme l'instance de légitimation du pouvoir. Un cycle historique de 2 siècles vient d'être bouclé. Les gens de Tahrir ne font pas que rejeter l'autocrate Moubarak. Ils rejettent à travers lui le principe même de l'autocratie. C'est pourquoi le fameux mot d'ordre « dégage » n'est pas seulement adressé à Moubarak. Il est, après lui, au maréchal Tantawi et après lui encore au président Morsi. Comment mieux dire que les gouvernants, s'ils ne sont pas mandatés par le peuple, ne sont plus rien? C'est un citoyen modeste, sans aucune prétention, un soir sur la place Tahrir, qui a eu ce mot grandiose. Ce jour, je prends possession du destin de mon pays. Mais si la place publique peut, en cristallisant une volonté populaire massive, provoquer la chute d'un, puis de 2, puis de 3 autocrates, elle ne peut pas spontanément offrir au pays une alternative concrète de pouvoir. Ce qu'elle a provoqué, c'est bien une révolution, mais c'est une révolution culturelle, un basculement qualitatif du rapport psychologique entre gouverné et gouvernant. C'est immense, mais ce n'est que cela. Tahrir ouvre une béance sur de nouveaux chemins à défricher. Lorsque s'amorce le reflux de la vague révolutionnaire, l'État profond reprend l'offensive pour restaurer un régime de type nassérien. Il croit alors pouvoir faire oublier jusqu'au souvenir de Tahrir. Il n'a rien compris à ce qui s'est passé sur la place. Il est en retard d'une époque. Les héros de Tahrir sont aujourd'hui réduits au silence. Ils n'ont pas d'idée claire sur l'avenir immédiat, mais ils ont acquis une certitude que personne ne pourra leur enlever. Ils savent que ce sont eux, désormais, qui détiennent le pouvoir de légitimer et de délégitimer ceux qui les gouvernent. L'épopée de Tahrir a été résumée dans cette phrase laconique et poignante, tracée sur un mur du Caire au moment où s'exprimaient les premières désillusions. Le régime n'a pas changé, mais le peuple a changé.
Merci infiniment pour cette splendide intervention, qui est encore une nouvelle contribution à la richesse de nos échanges. Alors je vais essayer de tenir dans 10 minutes, parce qu'on est très en retard quand même sur l'horaire. Ce que j'ai à dire, en fait, vient pas d'une participation constante dans un mouvement de place, ça vient de fréquentation des mouvements. Par exemple, j'ai passé plusieurs mois au Brésil après le mouvement de juin. J'ai participé aux manifestations brésiliennes, à des occupations. Je suis allé enquêter à Kiev sur le mouvement de Maïdan, donc en rencontrant un maximum d'acteurs de Maïdan. Mais je peux pas dire que j'ai participé moi-même à un mouvement de place. Et les seuls, c'est ce qui peut-être apparaît dans cette vieille démocratie qu'est la France, place de la République, depuis le 7 janvier, en fait, de cette année, et peut-être poursuivi sous d'autres formes. En tout cas, une chose m'a frappé dans la préparation de ce colloque, c'est que beaucoup des gens que nous sollicitions nous disaient « Mais nous préférerions parler à... I will speak in English. No. We would like to... most of the people we were soliciting for this conference were saying we agree to speak, but we would prefer to speak of the present, of the time now. But and those time, that's time of repression, of war. Putin is waging a war against Maidan, of terrorism, of violent repression in Egypt or in Tunisia, etc. Yes, of course, we have to talk about the consequence of the events, and we already talked about the consequences. But if there are consequences, it's because there were events. There were events that were very powerful, and this power of those events have to be analyzed. It has to be analyzed historically and also in their global character, which is a circulation between the movement, a resonance between movements. And there are some traits that are common and they are very important. It seems to me the question of the square, the square and the duration of the presence of the square, which is not any presence, it's the stubborn presence. We have to be there and to be present at the square. And what is striking is how the presence of the square is shaping a very strong public opinion. But a public opinion which is a political public opinion, but through non-political activities. It might be as it was in Maidan and Ukraine, it might be just to prepare food for all the people or protect people against the cold. That's a way also to fabric new social ties, new political ties at all the scales, as we already told, but which is shaping the opinion of the square that is becoming a new subject in the same time when all the people present on the square, and there were people from all the country, also are changing and becoming other subjects. So this character of the square, which is also the character of the address, of the collective deliberation, collective determination of the objectives, which might be very small objectives, like 20 centavos in Brazil for the public transportation, or for just a park in the city, but that might be very, very high objectives, like Dégage Moubarak, or Ben Ali or Yanukovych, which are very old. But this collective determination objective on the square itself is very important, because this very objective, limited objective, makes the number, the capacity for the number. Beyond this objective, its division, it's the getting back of politics, of old politics. So, and the force, the power of those movements are also in the limitation of those objectives. And they are getting through collective and open deliberation on the square. We could also observe a kind of restriction of violence for the point of view of the movement, a restriction of violence which is not a refusal of violence. There were violence in all those movements, but a very controlled violence, as it was the case in Maidan on Ukraine, but also in Brazil. The black blocs were present in the manifestation, but they were not separated from the manifestation. They were very much integrated to the main manifestation, the main demonstration, and there was a kind of delegation of the violence from the part of the demonstration, and a collaboration which was also some kind of horizontality of respect of the autonomy of the other individual, but also of the other as groups, which is also a characteristic of this place. So they were a big power, and we have to state and to memorize, to be sure that those movements were, for the majority of them, successful. I say for the majority of them, but because the Bulgarian movement was not very much successful as is this objective to dismissal of the prime minister in the summer.
He went out. The basic problem is how you're defining success and failure.
He went out. Well, that's something. So yeah. All those movements were successful, and which is not anything. It's not, but if we accept to take them in their force, which is a force rassembled around this very objective of the place. So it's the reason why this idea of an act by which a people becomes a people, this sentence of Jean-Jacques Rousseau is so important, because that is an accomplishment, an achievement of those movements. And what is important for me, and it is the way I was coming to studying those movements, it is that is also a statement toward history, toward the history of the figure of leadership, but also to the obsession of the 20th century to leadership. And the 20th century was very much Le Bonian. Le Bonian of the name of Gustave Le Bon, psychology of the crowd, and everybody was a reader of Le Bon, from the left to the right, from the enterprise, army, education, etc. And the main, the common idea was people in crowds cannot do without a leader, without a chef. And this phrase was very common. And it was a diagnostic, but it was also a discourse to the crowd. You cannot do without a leader. And now this discourse is quasi impossible to be said, to be pronounced. So those movements were a critique of the history, and that is what is the first aspect. We were told that it is technology and the capacity to network and so on, but it seems to me that technology is secondary according to this first thing, that is a collective thinking about what has to be done and what are we doing toward history. And it means that this idea of crowds that are going to the bad, if we do let them going their own way, this idea of the wrong crowds is completely over. Now we have reasonable crowds, and that the powers has to deal with, and the power they dislike this very much. They need people to talk to. They need representative. They need the representation. And so, what we can also state in this situation is a tension between the representative democracy and a street democracy. Exactly, if talking about social science, Max Weber invented the triple legitimation of the tradition of the science and of the charisma, but he didn't think to have a fourth legitimacy of the democratic representation, and nor of a fifth legitimacy, which can be the legitimacy of the street, of the place, of the new forms of democracy, exactly as now we can state that the squares might be the place of the national legitimacy and so on. You see how much, and I will close on that, you can see how much we are now, as social scientists, dependent to the movements. It's not a question to renounce thinking, but we have to recognize the capacity of thinking of those movements. We have to move to them. We have to not to stay in our offices, but move to those places and listen to not only to the claims, but listen to the reflexivity of the movement, which is not primarily with all the social scientists and quasi all those movements. Social scientists were very awkward also with those movements. But this thinking can be built by ordinary participants, artists, journalists, and other people. They are just now autonomous human beings in autonomous groups and autonomous crowds or masses or anything you'd like to name them. That's what I wanted to say.
Merci de vos communications. Alors j'aimerais entendre justement là où on vous a coupé, Leïla, en ce qui concerne votre recherche spécialement, et aussi surtout par exemple cette violence policière qui vous avez dit à juste titre que ça a une influence très importante sur le déroulement d'un mouvement. Ça a été le cas pour Gezi. Ça a été le cas pour le déroulement d'après Gezi. Maintenant, par exemple, l'utilisation de la violence peut aussi finir un mouvement. J'aimerais entendre plus sur ça à propos de votre recherche.
On va prendre trois questions, trois par trois.
Hello, my question would echo the one which was asked about Lebanon and the relationship between police and protesters. And my question would go to you, Ivan, and to you, Yves. Because maybe I'm wrong, but tell me. I see a kind of contradiction in your points on violence, actually, because Ivan was talking about violence and the absence of any horizontal logics behind violence. And you mentioned Maidan, and you told that Maidan is two different structures when there is the use of violence. And Yves, in your presentation of violence, it's more, you conceptualize it, it's more like a kind of horizontal also, you know, delegation, etc. So I see a kind of contradiction between your logics, and I would like you to elaborate on this. Thank you.
It's regarding to your, Ivan's thesis that these disruptions that happen because of these mass protests, they are not that good in society as they could be good in innovative sphere, like the sphere of making technical innovations. But also, don't you think that the thing is that, as you mentioned, okay, there are many IT people in the protest. It's not only IT people, but many people who see how internet makes the communication and the decision making horizontal. It's not only for IT people, but for many, many people today. And there is a contradiction between this and representative democracy, which in many countries which we discuss here, representative democracy is not so much representing the people, because many people don't have trust, don't give the trust credit to the representatives. Simply, they don't go and don't vote and don't give this trust as the ballot. So there is this contradiction between these two things, and these protests, even including the violence at Maidan, are the social experimenting. Because nobody actually knows how to connect the two. We heard some ideas, okay, electronic democracy, but actually it doesn't work for these millions of people. We don't have the implemented system of horizontal electronic democracy that would rule a state that consists of 10 million or more people. And if we knew, then we wouldn't have these experimentations which have side effects as deaths and polarizing and so on. But we don't know. This is a process.
Alors, je vais essayer d'aller très vite sur la question de donc la relation police-manifestant. Ce qui me semblait important, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est que les manifestants ont présenté la violence policière comme une réaction à la fragilité du régime politique. C'est-à-dire, on dit pour la première fois, voilà, nos revendications transcendent les clivages confessionnels et communautaires. Et c'est donc pour ça que, notamment le 22 août, la police a réagi avec un usage excessif de la force. C'est comme ça que l'ont vu les militants.
Il me semble pourtant que le régime politique libanais, l'État libanais étant divisé, c'est quand même important de revenir sur cette division, puisqu'en fait, à cette division de l'État répond une division du secteur de sécurité. Et sur la place de l'Étoile, où est situé le gouvernement, le Sérail, mais aussi le Parlement, il y a donc différentes forces qui sont présentes pour contrôler les institutions et les forces qui contrôlent le Parlement ne répondent pas à l'autorité du chef de la police de Beyrouth qui, lui, contrôle le Sérail, donc le gouvernement. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur cette séparation des forces de sécurité puisque c'est le Parlement qui a tiré en premier des coups de feu en l'air et le Parlement est protégé par deux forces, d'abord l'armée, et ensuite une force qui effectivement est liée à la police mais qui ne répond pas aux ordres du chef de la police de Beyrouth mais qui répond directement aux ordres du chef du Parlement. Donc c'est cette division de l'État qui explique en partie la répression, il me semble, et la spécificité du Liban est aussi la place de l'armée évidemment dans cette répression puisque l'armée est la première qui a tiré des coups de feu en l'air. Et l'armée, comme je viens de le dire, ne répond pas aux injonctions du chef de la police. Et c'est quand même une spécificité au Liban, puisque dans les démocraties occidentales, c'est justement tout au long du 19e siècle, c'est la police qui a pris la place majoritaire dans la répression des manifestations. Et c'est notamment dans cette séparation ou distinction entre police et armée et marginalisation de l'armée dans le maintien de l'ordre intérieur que se sont construits les États européens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et le deuxième point qui me semble important pour expliquer aussi l'usage de la force, c'est la question des infiltrés et des casseurs. Parce que évidemment, donc, comme beaucoup de mobilisations, il y a eu des casseurs qui, dès le 19-20 août, sont venus s'associer aux manifestants, ces casseurs étant des jeunes gens qui sont venus de la banlieue sud de Beyrouth et évidemment qui s'en sont pris beaucoup plus violemment aux forces de l'ordre. Ces casseurs ont donc légitimé d'une certaine manière la violence policière. Donc côté des forces de sécurité intérieure, on a eu affaire à un discours qui légitimait la violence puisque on avait affaire à des casseurs qui n'étaient pas légitimes puisqu'ils ne manifestaient plus pacifiquement. Mais au-delà de la légitimation de la violence policière, je crois que ce qui est important aussi de noter, c'est que la présence de ces casseurs a aussi divisé les manifestants. C'est-à-dire que certains des manifestants ont considéré que ces casseurs n'étaient pas des infiltrés, comme beaucoup ont voulu prétendre qu'ils étaient des infiltrés à la solde du groupe Amal. Et donc le groupe Amal aurait envoyé des casseurs pour faire échouer la manifestation par le recours à la violence, là où d'autres groupes, donc d'autres collectifs comme celui que je vous présentais tout à l'heure, Nous voulons des comptes, ont dit non, pas du tout, il ne s'agit pas d'infiltrer, mais véritablement du poumon de notre mobilisation dans le futur. Il faut absolument intégrer ces jeunes qui sont des jeunes marginalisés, qui eux souffrent du manque d'État, du manque d'électricité, du manque d'eau, et qui même si par moments ils font usage de la force et d'une violence, doivent être quand même intégrés. Et dernier point, outre les infiltrés, c'est les milices, parce que à la fin des manifestations, donc à partir du mois de septembre, on a eu véritablement des milices qui sont venues non pas pour casser la police, mais pour casser les manifestants. Et là, pour le coup, on avait vraiment affaire à des milices téléguidées par le groupe chiite Amal, qui sont venues casser les manifestants, et les manifestants ont perçu la police et les forces de l'ordre comme protégeant ces milices contre eux. C'est-à-dire que ces milices ont attaqué les manifestants et les forces de l'ordre n'ont pas réagi. Et donc là, on est véritablement en face à un problème pour les manifestants parce qu'ils ont du coup associé les forces de l'ordre comme protégeant des milices à la solde d'un gouvernement illégitime. Donc voilà.
Merci beaucoup. Ivan.
Thank you very much. Thank you for the questions because they're important and I very much agree that we're talking about a very interesting political experiment. But if it is an experiment, it's also very important to see what worked and what it didn't work. Foucault used to say, don't fall in love with power. I do believe we should also not fall in love with counterpower. Because part of the problem of Square is very interesting. Let's first try to compare Square to a barricade. Because there was a barricade was also a very important symbol of type of resistance before. What is a barricade? First of all, it is connected with violence, and it is also very much more local. It's my street. I was reading recently a history of barricades by a French author who basically claimed that barricades came very much as a response when you want to resist, but you do not have a leadership. So in a certain way, barricade came as the idea of a leaderless, violent resistance. And he was going back to the 16th century and so on. I say this because part of the charm and, in my view, the weakness of the square is that you go on the square as an abstract citizen. You are basically trying to keep your political ideology, your social origin, basically your profession out because you want to talk to other citizens to citizen. And this was very important. The idea is we all are here. Everybody was very much stressing the diverse nature of the square as a source of its legitimacy. This is also part of the fact why it's so not easy to make an identity out of it. Because the more you basically go with the diversity of it, everybody is there. Because everybody is there, you should come with a very abstract or some very concrete demands. You either should talk about the price of the ticket, like in Brazil, or the end of capitalism, like in Wall Street. But it's very difficult to make a classical political demands because classical political demands are divisive. And I do believe here comes part of the problem of the square and also the limits. You said the square shows that leadership doesn't matter. We are not in love with leaders anymore. Here I'll try to disagree. The two parties that came out after the experience of square people were one of the most leaders-focused parties that we have in Europe today. This is Podemos with Pablo Iglesias, and Pablo Iglesias was even his picture, his photo, was on a bulletin. If you're calling this leaderless, we can talk. The same with Syriza. Basically, Syriza is very much the leader of Syriza. So from this point of view, I do believe this was an important experiment, and this experiment taught people on the street that if they go to go political, probably this idea of the leaderless political movement does not work. So I do believe that it was very important, but it was much more they got a different lesson out of it. Concerning violence, and this is extremely interesting. Part of the story, and this is why I'm also going to make something about violence of the government. What happened after 1989, and basically with much more globalized world, is that the cost of violence against your own citizens has very much increased for everybody. So you can see governments, even a classical and much more authoritarian-minded governments, being very careful in using violence. President Putin did not arrest a single person before he was reelected. He used the fact that he was reelected and not basically to go there, and even more, he went and he used violence in Ukraine to make a message back home that I know how to use violence, but nobody basically goes on a classical Tiananmen Square type of attack. And this part of a violence is extremely important because I really do believe that when it comes to Ukraine, and from this point of view, Ukraine is slightly different on the level of representation. Because at certain point, Ukraine started to represent not simply society, but the nation. And this is why it was so easy for Ukraine to go to a war. This is why basically it's changed. This is why basically Maidan became the true representation of the Ukrainian non-state, which basically was not represented here and there. And we came to your absolutely basic question. We all see the major constraints of the representative democracies. People feel non-representative. On the other side, you have this very strong utopia that technology itself is going to allow people to go to a direct democracy. But direct democracy is not simply about technological availability. It's about how much time you're ready to invest. It's about who is going to invest. Imagine from this point of view, direct democracy could be much more exclusive even than representative democracy. So from this point of view, it's not a kind of easy story. And there was different movements. For example, in Latin America, there is in Argentina a very kind of a famous experiment. There was a political party which basically make their platform that they're going to discuss and they're going to vote on their internet network, and the representative simply is going to represent the majorities in these deliberative votes. Is this something that is going to work? I'm skeptical, but you're right that it's interesting that people are trying to kind of experiment with something, that they're basically learning here and there. So I want to stop here, but just to give you something about technology. I was in a meeting in Google, and basically they were trying to see how you can predict Maidans. And what they're doing is, and this is very important in order to see how technology thinking works, they're coding any tweet that is done in the world on positive, negative, and neutral. The content doesn't matter. If I said, oh, I'm so happy, I go to bed, it's positive. If I said, I have a hangover, it's negative. If I said, I hate Mubarak, it's negative. So from this point of view, this negative and that negative doesn't matter. They basically believe that if certain type of tweets reach a certain level of threshold, you can predict kind of a social unrest and things like this. From this point of view, social and political process was reduced. This is the way the epidemics are basically studied. Content doesn't matter. It's not about ideas. This is about very much about sentiments, feelings, people here, going here and there. There is no why. You're not asking anymore why people are on the streets. You basically believe that if certain number of tweets go too much negative, people should go on the street. I'm saying this because part, in my view, of thing that I personally learned out of looking at these movements is that at certain point, mistrust empowers. But there is a point about which, after which, mistrust in institutions starts to disempower the same people that being on the street. And governments learned it best. Bulgarian government never said during the protest, trust us. They said, don't trust anybody. And when people stop to trust anybody, I mean this type of social movements, day by day, starts to lose their attractiveness and their power.
Thank you, Ivan, for it's very interesting. I wanted to make a little bit more clear what I was saying about the power of those movements, of the leaderless movements. It's not a question of principle. It's not a question of a theory. It's a question of discovery and a surprise. And the surprise of the people themselves, for example, in Tunisia, I was struck, it was the first movement in Tunisia, it was a surprise for the people, and saying, well, we are without any leaders. And it became, after this discovery, this surprise and affirmation. And what's interesting, too, is that those movements are not willing to destroy the classical representative democracy. It's a way to address this democracy, without mediation, and not to respond to the desire of the representative. And there is a story about the first Brazilian demonstration for the transportation fare, and they were the prefect of São Paulo was prepared to receive the demonstrators and representatives, and everything was ready to the discussion, and the demonstration went and passed just, and it was very very surprising for them. So, and that is what's interesting is that it is this tension between the street or the square and the representation, which is, and it doesn't mean to despise representation. It might be very dangerous even to despise classical, but it's something you speak of an experimentation. It's difficult to speak of experimentation because, well, it might be so costly. But I think it's a process in process. It's a search of new forms of democracy in process. And about violence, this question, it seems to me that even if there are hierarchical forms of the organized violence, for example, on Maidan with the Sotnia, there are the groups of 100 people, which is formal, but it's a borrowing for the Cossack organization of army of the, by centuries, as the Roman organization. But the thing which is interesting for me is that this violence is organic to the movement. be there very horizontal, as the black blocs I have seen in Brazil, horizontal inside and horizontal with the discussion with the demonstrator, the non-armed demonstrator. There is some kind of horizontality. Or be there the Sotnia. They were actually completely a part of the movement of Maidan. They were completely also a spontaneous invention of the square. Even if they were... I met Sotniki centuries, and they were telling how they were coming to organize the Sotnia, but they were very much organized from extreme right groups also. But I think that there are the main thing. It seems to me is that it is integrated to those movements some various forms. So maybe we'll have some other question.
So I have a question to Umut and to Yves, you see, but it was something that we discussed already. It's okay? So my question concerns the way we speak of these protests. And Umut used the word community. It was the word that was recurrently coming back in this analysis. So the question is, what kind of community was the community of these protesters, of these protest movements? Because could we say that it was a community that emerged from the very protest? But there was something very interesting and in what Umut said, that after that, we cannot retrieve this community. We cannot find it again. So it existed during the protest, and then this community is kind of disappearing. So there is a kind of magic event. So maybe this is also the word event that you used. It's kind of event. So there is a community in one moment, and this community could not be discovered anymore. It could not be mobilized, and it's in order to be community, we should ascribe to this community kind of collective identity. But is the word community is a good one to speak of these protests?
Je parle en français parce que mon anglais n'est pas très bon. Donc, je voulais revenir un peu à ces rapports entre les mouvements et la société politique. Et j'ai trouvé très intéressant l'idée des citoyennetés abstraites parce qu'au Brésil, après 2013, on pensait, je suis brésilienne, on pensait bien sûr que dans les élections, tous ces mouvements politiques dans les rues allaient réfléchir un peu dans les résultats. Et en fait, on a aujourd'hui un congrès très, très conservateur. Et il y a des choses qui se passent dans la politique institutionnelle qui n'étaient pas... on ne pouvait pas penser vraiment que ça allait passer après tous les mouvements de 2013. Donc, pour moi, c'est une question importante de savoir les rapports entre les mouvements et les partis politiques. Est-ce que dans les autres expériences, est-ce que vous avez... Je vois ça beaucoup en Espagne maintenant, vraiment, mais je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Mais au Brésil, vraiment, on n'a pas eu un changement au niveau de la société politique, comme on espérait. Donc, peut-être quelques éléments de réponse ou des questions, des nouvelles questions sont là qui on avait déjà discuté un peu ici.
Une dernière question. Bon. Volodymyr.
It's a violent question of violent Maidan or not violent Maidan. So in Ukraine, generally, like people separate that was peaceful Maidan, like students first they came to like to join to Euro Union, like to for this Euro for signing Euro Association, but. And they call it like peaceful Maidan, but these people was supposed to push it away on 1st of December. And there was some group which call themselves right sector, it wasn't like famous people. It just appeared some group like kind of heathens who just support some like people's movement. There was in some military also young patriotic groups. And they said, we will not go from here. And there was a lot of police. So they start to fight with police and throw to police some glass conservations. So police was too angry and beat people. And after this, when they beat, like to say peaceful people, so there appear like millions of people on next day. So there is a question. Someone calls them provocators. Others think they was part of this Maidan people. And generally, they are like peaceful Maidan. But it's a question, what to call peaceful Maidan? What is violent Maidan? It's just replica. I don't know. Maybe you have some.
Maybe I would ask a question to my neighbor, Mahmoud Hussein, because he had no question, but I would have a small question. You told us about the Tahrir as an event, and it was very strong. And you told also about the transformation of the people and the opportunity for the people to transform, finally. But what was the very reflection of this Tahrir through the repressions, to the difficulties, to the changing of the government, to the etc. Because there were reflections on the Bulgarian movement or Brazilian movement or all the movements through the blocs. There were very dense reflections. Were there such kind of reflection during the movement itself about itself? That would be the question. So maybe where were the... Who would answer to the first question about community? It was for Umut and for me too, if yeah. I understood.
Well, it's a very straightforward and simple answer because I didn't say community. I said Victor Turner's concept of communitas, which is completely different. In 1974, he actually used it to contrast it to community. The main point is, and without going to too many jargon or details, it's temporary. It's liminal. You know, he describes it to those liminal moments which happen during the rite of passage. You know, from say, you know, his work is based on tribal societies, 1970s classical anthropology. So it is opposed to structure, actually, and the way in which we used it is this, you know, temporary sense of egalitarianism or sense of brotherhood, sisterhood, which emerges during those moments, which don't last. That's the problem. So I mean, you know, it never turns into community. If it did, then maybe, you know, something might have been, you know. We would discuss in a completely different thing. And actually, I just have the article. I found the article while we were asking the other questions. This is a quotation directly from Turner's article. He says that, you know, when, you know, I mean, there's a point in which communitas ceases to exist, and it is usually, I mean, especially in religious and political movements, it may be speedily followed by despotism, over-bureaucratization, and other modes of structural rigidification. And this is what we have seen, at least in the Turkish case, but I would say, you know, in several other cases as well. So it's that's why, I mean, he prefers to, I mean, it's probably, you can say that it's just an academic, you know, semantic game, fine. But I mean, I think, you know, it's not a matter of choosing which term, you know, the Latin version versus the English version, but it's the sense, I mean, I think what it describes, he has a point there. And this is why we don't have community. If we had, you know, we wouldn't have seen these different, you know, probably that sense of solidarity, which characterizes most communities, if not all, would have lasted, but it didn't.
Oui, je peux dire un mot. Évidemment, c'est une question passionnante, mais comme en 15 minutes, il fallait bien choisir un fil conducteur, nous avons choisi un peu de replacer Tahrir dans une séquence historique. Alors, Tahrir en soi, comme moment présent, bien évidemment, a donné cours à toutes sortes de débats absolument passionnants, depuis les tout petits problèmes qu'on pouvait se poser au jour le jour, jusqu'aux grands problèmes politiques qui se sont posés d'ailleurs les uns après les autres. Ça n'a pas d'intérêt en quelques minutes de parler de tous les partis existants déjà ou qui se sont formés au fur et à mesure et qui ont pris telle ou telle part dans la discussion. Il y a les grands partis, et c'est surtout les Frères musulmans puis les salafistes, et ceux-là ont posé des problèmes dans un deuxième temps. Le premier moment a été celui où il a fallu se rendre compte que le Conseil supérieur des forces armées, qui a pris le pouvoir à la place de Moubarak, et qui a prétendu le prendre au nom de la révolution, commençait à faire toute une série de choses qui allaient dans un tout autre sens. D'une part, la répression qui s'abat sur beaucoup d'activistes. D'autre part, les choix qui ont été faits de faire passer les membres de l'ancien régime devant des juridictions ordinaires, avec des juges que ces gens-là avaient nommés, avec des lois que ces gens-là avaient faites. Et donc, on a vu que peu à peu, au bout de 3-4 ans, tout ça est parti en autre boudin. Mais peu à peu, la confiance qui avait été mise dans l'armée en général a été ébranlée. A été ébranlée parce que on a vu que peu à peu, ce qu'on attendait de ce nouveau pouvoir ne venait pas. Et donc, il y a eu très vite, au bout de moins d'un an, l'idée de que après Moubarak, c'était à Tantawi, qui était le président du Conseil supérieur des forces armées, de dégager lui aussi. Donc, il y avait toutes les manœuvres qu'on a voulu faire pour créer une autre place qui était à Abbasiyah, c'est-à-dire une place qui, elle, était proche de l'ancien pouvoir et des militaires. Bon, tout ça, il y a une longue histoire à raconter, mais c'est évident que à partir du moment où le moment de revendication absolument globale et unanime commence à se scinder, commence à jouer des forces différentes. Donc il y a eu, premièrement, le rapport de confiance à l'armée qui a commencé à se dégrader. Ensuite, il y a eu très vite, justement, cette espèce d'accord complexe et difficile, mais accord quand même, entre le Conseil supérieur des forces armées et la direction des Frères musulmans. Puisque ça a été le calcul qui a été fait par les deux, chacun de ces deux pôles qui avait une masse de manœuvre réelle dans le pays, a pensé que en se mettant d'accord, ils allaient d'une part briser peu à peu l'élan de la place Tahrir, et deuxièmement, selon le mot d'ordre qui a été très à la mode pendant un certain temps, passer de la légitimité de la place à la légalité des urnes. Et donc là, on fait intervenir le problème des élections. Et comme, entre-temps, il y a eu manif sur manif et qu'elles étaient constamment réprimées, il y a eu, du point de vue des Frères musulmans, le choix qui a été fait. On ne s'occupe pas de cet aspect des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la majorité au Parlement, puis à la présidence. Ça, c'est un long processus, évidemment, qui mériterait d'être développé beaucoup plus en détail. Mais ça a conduit quand même à l'élection de Morsi. Et là, ce qui est vraiment important à dire d'emblée, c'est à quel point, au bout de 6 mois, les Frères musulmans ont perdu tout ce qu'ils avaient pu gagner comme appui et comme un sentiment populaire, même partiel. Et donc, là, on se rend compte qu'il y a eu peu à peu un mouvement qui, d'ailleurs, reprend la même manière de faire qu'on a vu faire en 1919 autour de Zaghloul, l'idée du mandat populaire, l'idée que on allait faire signer à un grand public, enfin retrouver une nouvelle unanimité avec des signatures personnalisées pour dire bon, ça suffit, les frères musulmans n'ont pas tenu leur promesse. Et ça a donné ce qu'on a vu en juin 2013, c'est-à-dire de nouveau un immense mouvement populaire, mais avec beaucoup d'ambiguïté, puisque là, pratiquement tous ceux qui voulaient s'opposer aux frères musulmans, c'était pas seulement un mouvement populaire, c'était aussi tous les gens de l'ancien régime, et la police, et l'armée, et tout ce qu'on veut. Ça a donné, effectivement, un très grand mouvement, mais qui a été ensuite récupéré par l'armée. Bon, enfin, donc là, rien que... En donnant certaines indications rapides, évidemment, il y a donc toute cette vie nouvelle qui a eu lieu, mais il nous importait de dire que même si Tahrir était fermé au sens strict, c'est-à-dire maintenant interdit, il a produit une conscience nouvelle qui, elle, est toujours là et a tout l'avenir devant elle.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants. Et à la discussion.